France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Lucien R., un modeste mais génial bibliothécaire de la rue d'Ulm qui exerça une influence formidable sur tous les normaliens, tous ou ceux qu'il sélectionnait lui-même. La fraternité d'un aîné, Lucien R., un savant, une image du savant. Deuxième partie de Profil perdu consacrée à Lucien R., émission de Pascal Lismonde, réalisée par Marie-Ange Garandeau, première diffusion sur France Culture le 10 novembre 1988.
Profil perdu. Lucien R., le prince du grenier, 1864-1926. Seconde émission proposée par Pascal Werner et réalisée par Marie-Ange Garandeau, avec Jean Bayou, Simone Fraisse, Henri Guillemin, Jean Lacouture, Géraldine Leroy, Daniel Lindenberg, Madeleine Réberiou et Jean-François Sirinelli. Décidément, qu'est-ce qu'on est bien dans cette cour de l'école normale supérieure, enfin dans ce petit jardin. Et on comprend que Lucien R. y était si longtemps attaché. Mais qu'est-ce qui fait le charme de ce personnage? Qu'est-ce qui fait cet attrait presque énigmatique d'un homme qui était pourtant tout entier voué à la politique, mais qui avait d'autres facettes?
Oui, le charme pour nous, pour ses contemporains, il est évident que c'est un homme qui avait un grand ascendant par sa conversation, par
Daniel Lindenberg.
Nous n'avons pas de témoignages autres que ceux d'hommes célèbres qui ont pris une pause en parlant.
Il y a quand même une chose, c'est que vous venez de dire par la conversation, et ça c'est une chose très rare.
Oui, bien entendu, c'est un rôle qu'on connaît bien, mais en général, on le connaît sous les formes classiques du salon, par exemple. Alors que Lucien R., justement, est le contraire d'un homme de salon. C'est un homme de bibliothèque, c'est un homme de bibliographie. Alors évidemment, le paradoxe, c'est que son charme est lié à des choses qui, d'habitude, ne sont absolument pas charmantes. Ça renvoie, encore une fois, à une personnalité d'exception qui d'ailleurs ne se manifestait pas par le besoin de séduire, puisqu'au contraire il était souvent rude, souvent il essayait de décourager, disons, ce qui lui apparaissait comme des esprits uniquement intéressés ou faibles, etc. Et il essayait de sélectionner finalement pour ce qu'il estimait être sa grande entreprise des êtres d'exception. Donc on peut dire que les gens étaient sous le charme, alors que c'était pas simplement un effet du dandysme, etc., parce que là-dessus nous n'avons pas grand-chose comme témoignage sur sa période justement la plus classique comme intellectuel de revue, comme intellectuel qui fréquente des cafés littéraires, etc. Bon, nous savons simplement que il a su transformer la vie de beaucoup de gens, en particulier beaucoup de normaliens, dont la vie aurait été différente s'il ne l'avait rencontré.
La condition du progrès est d'augmenter l'indépendance de chaque génération nouvelle. L'homme moyen étant immobilisé dans ses idées et ses intérêts lorsqu'il est arrivé à maturité, le progrès a pour condition l'initiative des générations plus jeunes, exigeant une adaptation plus parfaite de la réalité sociale à leurs désirs nouveaux, à leur volonté et à leurs idées.
Lucien R., Le progrès intellectuel et l'affranchissement, 1880-1890.
Ce personnage d'Alsacien, qui en avait toute la stature, Alsacien du Haut-Rhin, très grand, massif, un peu mastoc.
Madeleine Réberiou.
Homme de silence, qui se marie très tard, qui entre donc très tard dans les joies, ou plutôt les malheurs, mais enfin les joies de la vie de famille. Bon. Qui se veut le plus âgé, mais le compagnon des jeunes qu'il... dont il est bibliothécaire à l'école normale supérieure. Ne pas oublier qu'il déjeune tous les jours avec eux, sans aucune exception. Il déjeune tous les jours à l'école, jusqu'au moment où il se marie. Et c'est lui qui sert le café. Il y a une anecdote assez drôle qui raconte que quand il a cessé de déjeuner avec eux, c'est-à-dire quand il s'est marié à 48 ans, les élèves de l'école lui ont offert en cadeau de noces le bâton de verre avec lequel il agitait le sucre dans la cafetière avant de la leur verser. Alors cette espèce de fraternité d'un aîné, de fraternité de quelqu'un qu'on respecte, a joué certainement un rôle. De même, me semble-t-il, le fait que cette fraternité vient de quelqu'un qui était un savant et qui s'est toujours voulu tel, qui se définit comme une image du savant, une image de l'homme qui sait. Il a même été longtemps convaincu que c'était aux intellectuels et à eux seuls de mener le monde. Il a un peu rabattu de cette prétention exclusive lorsqu'il est devenu militant socialiste. Et cette science dont il est porteur, dont il entend être porteur, c'est d'abord la science allemande. Comme tout le monde à l'époque, je veux dire, comme tous les grands intellectuels de l'époque, il est mu par une espèce de fascination pour la science allemande, non pas tendu au voyage qu'il a fait en Allemagne en sortant de l'école en 86-87, il a plutôt été déçu, semble-t-il, par les professeurs qu'il a rencontrés, dont il a suivi les cours en Allemagne, mais par ce qu'il a lu des philosophes allemands, et pas seulement Hegel. C'est quelqu'un qui est totalement fasciné par le monde de l'érudition et par la bibliographie. Ce que Peggy lui reprochera assez, d'ailleurs, lorsqu'il aura rompu avec lui. Peggy, qui était tout sauf bibliographe. Mais Lucien R. pensait que pour être maître de sa propre pensée, il fallait savoir ce que d'autres avant vous avaient pensé et dont on était en quelque sorte les héritiers. Mais il est clair que chez Lucien R., cela définit une image du savant alors qu'il est philosophe. Enfin, c'est une figure morale, Lucien R. Hein, voilà, c'est une grande figure morale, une grande figure éthique. Et une grande figure éthique qui eut à vivre, comme tout le monde, des tensions entre l'éthique et la politique.
L'insurrection, la révolte, c'est-à-dire en langage simple, l'examen et la critique, est un devoir non seulement dans les cas exceptionnels et graves, mais toujours.
C'était un homme, effectivement, qui en imposait, d'abord parce qu'il savait tout. Alors, pour des gens qui se vouent au savoir, qui font quand même savoir une valeur, c'était effectivement quelque chose d'assez étonnant. C'était une sorte de prodige de la nature, et en même temps, c'était un homme simple et direct, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de relation. Et je crois que, bon, mis bout à bout, si on tient également compte de son aspect romantique, proprement dit, c'est-à-dire du mystère de sa vie, du halo de secrets dont il s'entourait, on a effectivement les éléments d'un cocktail comme ça qui fait que les gens s'attachent, ou d'ailleurs s'attachent pas, parce que tout le monde s'est pas attaché à Lucien R. Nous avons, dans les mémoires de nombreux normaliens, des gens qui ne sont tout à fait passés à côté, qui ont trouvé que c'était finalement une espèce de scribe tout à fait inintéressant.
Dans la bibliothèque de l'École normale supérieure, Henri Guillemin, promotion 1923.
Son bureau était juste à l'entrée de la bibliothèque, à droite de l'entrée, si bien que quiconque entrait à la bibliothèque pour y chercher les livres passait devant Lucien R. Dès mon entrée à l'École normale supérieure, j'avais été interrogé par mes camarades. Je n'avais pas caché que j'étais catholique, et vous savez sans doute le mot qu'on employait pour dire les catholiques à l'École normale, c'était les talas. Pourquoi Tala ? Ceux qui vont à la messe. Et mes camarades catholiques m'avaient tous dit « Attention, Lucien R, c'est un type épouvantable. Vous savez, il est très dangereux. C'est un franc-maçon actif. C'est un franc-maçon qui non seulement déteste l'Église, mais déteste même le christianisme. C'est un homme qui représente les Lumières. Nous n'avons pas de chance avec un homme comme lui. » C'est donc avec une petite peur, que j'ai poussé la porte de la bibliothèque de l'École normale lorsque j'y suis entré pour la première fois. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ben, je dois avouer, vous savez, que j'étais en avance. J'étais déjà licencié et déjà possesseur de mon diplôme d'études supérieures lorsque je suis entré à l'École normale, si bien que les deux premières années j'ai très peu travaillé, et comme j'étais secrétaire particulier de Marc Sangnier, que j'étais très souvent chez Sangnier plutôt qu'à l'École normale, je voulais me renseigner sur Saint-François d'Assise. Vous savez peut-être que le sillon avait pour emblème Saint-François d'Assise en train de labourer. Alors je me dirigeais vers les rayons, le catalogue, quand tout à coup, feuilletant ce catalogue, une main se pose sur mon épaule. Je me retourne, c'était Lucien R. Qu'est-ce que vous cherchez, mon petit ? Vous pouvez m'appeler mon petit puisqu'il était vieux et que j'étais tout jeune. Alors je ne me désarçonne pas et je lui dis, je chercherai quelque chose sur François d'Assise, en voyant ce qui va arriver. Eh bien, cherchons ensemble. Ah, il y a un très bon livre de Sabatier. Par conséquent, aucune ironie, au contraire, un accueil fraternel et quelqu'un, le grand patron, qui s'occupait de moi avec bienveillance. Dès qu'on a eu trouvé les livres que je cherchais, il m'a dit « causons un peu ». « Qui êtes-vous ? » Ben alors je dis qui je suis et je lui parle de Marc Sangnier. Immédiatement sa figure s'éclaire. Il faut que je vous représente le personnage. Hein. Le Lucien R. que j'ai connu, c'est le Lucien R. de la fin, était assez bismarckien. Je veux dire qu'il avait le crâne dénudé, qu'il avait une grosse moustache, mais c'était le regard qui est différent de celui qu'on prêtait au chancelier Bismarck. Si vous avez vu des images de Bismarck, c'était un regard très dur, un regard de fait. Tandis que le regard de Lucien R. était un bon regard. Et figurez-vous qu'une amitié, je dis bien une amitié, s'est établie en Lucien R. et moi. Toutes les fois qu'il m'arrivait d'entrer à la bibliothèque, Lucien R. me faisait un petit signe du doigt, venez poser avec moi. Et on causait, et il me demandait toujours, mais comment ça va du côté de Sangnier, qu'est-ce qu'il fait ? Or, comme en 1924, il y a eu le cartel des gauches, et que je n'ai pas dissimulé à Lucien R. que j'allais voter pour le député du cartel des gauches, il était très content de moi. Je lui ai même dit, je me rappelle très bien, je lui ai dit, vous savez, je suis bien content que Herriot soit à la tête, mais il y a une chose chez Herriot qui m'agace. Mais quoi donc, me disait-il ? Ben, je lui ai dit, Herriot veut mettre au premier plan la rupture des relations avec le Vatican, et je surveillais bien Lucien R. Il me laissait dire, en souriant. Je me rappelle très bien qu'il est resté muet, silencieux, souriant, sachant simplement, et ça l'intéressait, que je votais hardiment et que je faisais voter pour le cartel des gauches.
Jean Bayou, président de l'Association des anciens élèves, promotion 1924.
Pour nous tous, c'est une silhouette que nous voyions se profiler lorsque nous entrions à la bibliothèque, haut, très, très élevé. On voyait son buste, car il se trouvait caché en partie par un rempart de livres et de revues, complété à droite et à gauche, aux deux bouts de ce comptoir, par deux tours plus élevées de livres encore et de revues encore. Il avait une allure évidemment sportive, peut-être un petit peu une allure sportive, peut-être un peu courbée par là, je ne suis pas sûr, mais il avait gardé une acuité du regard de ses yeux bleus qu'on oubliait difficilement. Nous avions la plus grande révérence. C'est bien le mot de révérence qui est le bon mot. La plus grande révérence pour sa probité et surtout pour sa science. Tous, nous reconnaissions qu'il avait assimilé la matière de cette énorme bibliothèque, de cet énorme tas de livres, comme disait Guénaud, et qu'il la connaissait du dedans. Lui-même, d'ailleurs, prenait contact avec chacun d'entre nous. Nous le voyions arriver avec reconnaissance et avec un petit peu de crainte. Et
bon, pourquoi
à cause de la... du caractère universel de sa science et des lacunes que nous ressentions, dont nous avions conscience en nous. Et alors, il vous abordait toujours avec la même phrase, « Sur quoi êtes-vous » C'est-à-dire, « sur quoi travaillez-vous » prononcé de sa voix grave. Et immédiatement, il vous sortait le titre utile et se faisait la conversation. On se situait à des hauteurs différentes des deux interlocuteurs, car nous étions souvent sur les marches de ces énormes échelles que vous voyez, qui ressemblent un peu aux tours dont Jules César se servait au moment de la conquête des Gaules, mais qui donne à cette bibliothèque, avec ses rayonnages de bois, qui donne une allure extrêmement poétique. Mais il y a une chose d'ailleurs qui nous attachait à la bibliothèque. C'était pour nous le signe de la liberté. Être lâché là, au milieu de 400 000 ouvrages, libre d'accès. Et c'était pour nous ébattre dans le domaine de la connaissance. C'était vraiment le signe de la liberté.
Jean-François Sirinelli.
N'oubliez pas que cette influence de Lucien R. s'exerce sur 3 ou 4 décennies. Et donc, quand il côtoie, par exemple, de jeunes normaliens vers 1910, il est, et de très loin, leur aîné, si vous voulez. Alors, ce qui m'amène d'ailleurs à une question, pourquoi cette influence ? Pourquoi ce rayonnement ? pourquoi, d'une certaine façon, ce prince dans ce grenier, comment rayonne-t-il? Au début des années 30, Paul Nizan, qui était un normalien des années 20, Paul Nizan écrit un livre, enfin, pas au début des années 30, dans les années 30, écrit un livre qui s'intitule « La conspiration ». Et ce livre est très intéressant quand on veut voir un petit peu ce qu'est l'image du Lucien R. vieillissant, du Lucien R. de la fin de sa vie, puisque l'action, du moins l'action du début du livre, se passe en 1924. Vous le savez, Lucien R. va mourir dans 2 ans, c'est un homme qui a déjà un certain âge.
Il a 60 ans à peu près. Plus
il a à peu près 60 ans à cette époque. Et Lucien R. donc est le grand ordonnateur du retour des cendres de Jean Jaurès à Paris. Et a lieu une cérémonie funèbre, et Paul Nizan et ses amis viennent à cette cérémonie funèbre, et il y a des phrases très frappantes sur Lucien R. Léon Blum est présent. Et pour ces jeunes communistes que sont Nizan et ses amis, Léon Blum, c'est, j'allais dire, l'antéchrist. C'est le chef, ou l'un des chefs de la social-démocratie, à leurs yeux donc un social traître. Et donc il y a des phrases très dures. Et en revanche, celui qui sert en quelque sorte de point de repère, alors qu'il est lui aussi, ne l'oublions pas, social-démocrate à leurs yeux, c'est Lucien R. Lucien R, parce qu'à leurs yeux, ils emploient l'expression, c'est un homme, un vrai. C'est un homme, un vrai, précisément par ce refus de parvenir. Alors, ça nous amène d'ailleurs à un problème, vous le voyez, c'est la distance entre la réalité et la perception. Parce qu'on voit qu'à la confluence d'un certain nombre de mémoires, la mémoire socialiste d'une part, mais aussi la mémoire d'une extrême gauche, Lucien R devient une sorte de saint laïc.
Ils reconnurent alors Lucien R qui causait avec Lévi Brulle et qu'il respectait, depuis qu'on leur avait raconté que R parlait toujours aux jeunes gens de la volonté de ne pas parvenir. Lucien R, qui portait déjà, avec le poing invisible des grands livres qu'il n'avait pas écrits, le fardeau de sa prochaine mort, s'approcha d'eux. Ils le saluèrent. Avec lui, on est à peu près tranquille. Il n'y a aucune combine de derrière la tête. Il devait être le seul qui pensait réellement, comme si le coup dur de juillet 14 datait d'hier, à Jaurès. Un type qui était de la promotion de Baudrillard et de Bergson, et qui avait de la force, de la barbe, du courage, de la voix, et qui avait composé dans sa jeunesse une thèse latine sur la réalité du monde sensible. Paul Nizan, La conspiration.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas rupture, mais il y a glissement de génération en génération. Et comme cet homme a exercé une influence songée pendant 40 ans, de 88 à 26, pendant 38 ans précisément, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a en face de lui des gens qui changent, et un monde qui change. On a dit cette fascination pour un être qui s'isole volontairement. On a dit cette estime pour cet homme du refus de parvenir. Mais il faut bien voir ce qu'est là, l'école de la rue d'Ulm. J'évoque ces normaliens et je montre bien que beaucoup d'entre eux sont ce que j'ai appelé des boursiers conquérants, c'est-à-dire des gens issus non pas du tout de la classe ouvrière ou des catégories paysannes, mais disons des classes moyennes, des petits fonctionnaires, aussi bien à la fin du 19e que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est le même itinéraire que celui de Lucien R.
D'une certaine façon, c'est ce que j'allais vous dire. Et en tout cas, ces jeunes gens qui sont des boursiers conquérants, ces jeunes gens qui sont souvent, qui appartiennent à des milieux d'instituteurs, qui sont radicaux ou socialisants, donc se retrouvent en adéquation à la fois sociologique et idéologique avec cet homme, en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc, disons que Lucien R. est à l'image de la rue d'Ulm dans laquelle il officie. Si vous voulez, la coulisse est à l'image du personnage qui y officie. Et c'est ça qui explique aussi cette influence.
En 1924, il y avait encore un homme. C'était Lucien R. Quand on voyait ce géant penché sur une colline de livres, ses yeux sans brouillard, lorsqu'on entendait sa voix qui ne mentait jamais, énoncer des jugements qui ne voulait que cette fin juste, rendre à chacun ce qui lui revient, on savait qu'il n'était pas périlleux de vivre dans cette demeure crasseuse. Paul Nizan, Aden Arabi.
il a fait l'éloge du déracinement. Hein, pour répondre à Barrès, il a fait l'éloge du déracinement. Est-ce que lui-même n'était pas quelqu'un de déraciné et de transplanté étrangement dans un milieu mélangé qui était celui des intellectuels et le milieu populaire? Et ça, ça se marque dans sa vie, ça se voit.
Oui, effectivement, il est pas, il est peut-être le déraciné selon Barrès, encore qu'il était très ancré justement dans son milieu alsacien, parce que c'est pas tout à fait être déraciné que d'être de par une double culture, un pont entre deux cultures, c'est être conscient de son appartenance à l'une et à l'autre. Alors évidemment, par rapport à des gens qui font de l'appartenance à une seule culture finalement un impératif, il était déraciné, mais sinon c'est pas ça. Effectivement, alors là, le fait qu'il était transversal entre le milieu des intellectuels, finalement le plus fermé, enfin, puisque fréquentait non seulement les intellectuels universitaires, mais d'autres à travers, malgré tout, c'est parce qu'après tout, il a fréquenté aussi le salon de Madame Ménard d'Orient. Il a également vu des gens
qui était la petite fille, l'arrière petite fille de Madame Roland.
Voilà, c'est ça. C'est ça, une grande famille protestante qui a eu un grand rôle dans les lettres françaises. Mmh. Et il avait fréquenté effectivement des Barrès, des intellectuels symbolistes, des poètes. Donc en fait, il était ancré, disons, on peut dire dans l'élite, et en même temps ancré dans une autre élite qui est l'élite ouvrière du 19e siècle. Et de cela, on sait assez peu de choses. Sauf qu'il a pensé que moralement, souvent, ces hommes, ces ouvriers, ces artisans très qualifiés, etc., étaient héritiers de quelque chose qui avait aussi parfois une noblesse plus grande que celle des classes nanties. Et simplement, il n'y a pas de témoignage de ces travailleurs avec qui il a milité, tout à fait secrètement, sous un nom d'emprunt. Il n'y a pas non plus beaucoup de témoignages de ces révolutionnaires russes ou en général cosmopolites qu'il a fréquentés à Paris ou en Russie même. Encore une fois, on est renvoyé quand même à toutes les interrogations, à tous les blancs de sa biographie. Hein.
On peut mesurer le degré de civilisation au degré de cosmopolitisme. Grec, romain, russe, turc, chinois.
Mais ce déracinement, il a quand même une grande force d'inflexion, justement, puisque on peut penser que le rôle qu'il exerce au moment de l'affaire Dreyfus va transformer durablement le mouvement intellectuel et le mouvement ouvrier.
Il parlait de la conspiration permanente des savants. Pour lui, héritier d'une certaine tradition, peut-être d'ailleurs positiviste ou saint-simonienne, mais qu'il infléchit évidemment avec beaucoup de radicalité. Il n'en fait pas seulement l'instrument d'un vague progrès intellectuel. Pour lui, disons qu'il a fait qu'il a entraîné dans ce qui était véritablement une aventure, non pas tous les intellectuels parisiens, là, loin de là, il y avait beaucoup ont été anti-Dreyfusards. Enfin, beaucoup de gens, il les a entraînés, puisque ça a entraîné jusqu'à Zola, jusqu'à un écrivain, après tout, qui était installé, qui n'avait pas besoin de cela, l'idée d'une lutte finale, effectivement, une espèce de lutte finale qu'il faut rattacher, effectivement, au fond, à ce qui se passait depuis 1789, à la lutte contre l'obscurantisme, à la lutte contre les forces militaristes, contre les restes de l'Ancien Régime. Et ces gens-là, pendant quelques années, parce qu'après, justement, ça n'a plus... Après, disons, 1905, il y a eu quand même un vaste retrait. D'autres problèmes se sont posés, les problèmes de la défense nationale, du patriotisme, de l'attitude vis-à-vis d'Allemagne. Mais pendant cette période, effectivement, de l'affaire Dreyfus, l'utopie, que les intellectuels français au XIXe siècle ont toujours nourri de se rapprocher du peuple, a trouvé là quelque chose, un ancrage concret. Il y a eu l'affaire Dreyfus, puis après il y a eu l'université populaire, le théâtre social, etc. Et l'unité socialiste, après tout, qui a été le fait d'intellectuels. Finalement, tout ça débouche sur la fondation de l'humanité en 1905, qui est absolument l'aboutissement de l'entreprise dreyfusienne, en tant qu'elle n'est pas simplement... Il ne s'agit pas simplement de tirer un officier juif injustement accusé de prison. Il s'agit à cette occasion de faire la jonction entre les forces justement du mouvement ouvrier et puis cette conspiration permanente des savants, des intellectuels.
pense à bientôt, car la sainte espérance emplit nos cœurs en te disant adieu, en attendant l'heureux de délivrance. Pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments, où flottent leurs bannières, semblent porter le deuil de ton drapeau. France, entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais.
À Maurice Barrès. Je suis l'un quelconque de ces intellectuels dont la protestation vous a si fort diverti. Mon sentiment sur votre personne politique et sur votre action est celui d'un anonyme et d'un inconnu. Il faut, pour les revirements hardis, beaucoup de courage simple ou un cynisme résolu. Et vous n'avez ni l'un ni l'autre. Vous avez hésité jusqu'à ce qu'il fût trop tard. La première liste était publiée et vous ne pouviez figurer sur une autre. Bravement, vous vous êtes jeté à l'eau. Je crois bien que vous y resterez. Au reste, il se peut que je me trompe. Peut-être n'avez-vous eu ni une hésitation ni un scrupule. Ce qui est évident, c'est que la question elle-même, culpabilité ou innocence, justice droite ou crime judiciaire, procédure loyale ou violence oblique et sournoise, n'existe pas à vos yeux. Tranquillement, vous déclarez que réclamer justice égale pour tous, exiger un contrôle sur une série de procédures dont tous les actes patents sont ou d'une inquiétante imbécilité ou d'une audace qui confond, vouloir rendre inoffensifs désormais ceux qui, sciemment ou passivement, furent les instruments de plus haut que, de plus puissant que, d'une institution, d'une caste, de tout un esprit, c'est dresser contre la patrie une race mauvaise et haïssable. C'est se faire les dupes ou les complices des étrangers du dedans. C'est être à coup sûr criminel. Votre idée, et c'est, je crois, toute votre opinion dans l'affaire qui obsède par le monde entier les hommes qui ont, à quelque degré, le souci de la justice, c'est que l'âme française, l'intégrité française, est aujourd'hui insultée et compromise au profit d'étrangers par l'infâme machination d'autres étrangers grâce à la complicité de demi-intellectuels dénationalisés par une demi-culture. Il y a chez vous une idée constante, fixe, à force d'être constante, fixe à force d'être, si je compte bien, votre unique idée. C'est l'idée de la race, et des sous-races dans la race. C'est l'idée des petites patries locales se fondant dans les petites patries provinciales, et des petites patries provinciales se rejoignant dans leurs résultantes communes, dans la grande patrie française, substance unique, âme, que vous voulez close, et intangible. Au fond de votre patriotisme provincial, vous trouveriez, en cherchant, la vieille tradition chauvine de la province frontière, la terreur héréditaire des bandes d'outre-Vosges qui périodiquement descendaient ravager la plaine. Plus au fond encore, en cherchant bien, vous trouveriez la haine de province à province, de ville à ville, de village à village, la haine barbare, la haine native de ce qui est autre. Au fond de votre patriotisme national, si vous saviez écarter tout ce qui est d'excitation littéraire, vous trouveriez non pas la vieille France, qui avait une tête et qui n'avait pas d'âme, mais la France conquérante, altière et brutale, la France napoléonienne, c'est-à-dire le chauvinisme cocardier des grandes villes, l'instinct passionné de la gloire guerrière, c'est-à-dire encore l'exaltation barbare, la haine et l'orgueil de la force.
Lucien R., La Revue Blanche, 18 février 1898.
Après l'affaire Dreyfus et la naissance du parti intellectuel, nouvelles explorations, échecs, reprises, 1898-1914.
Lucien R. était bibliothécaire à l'école normale, Peggy en était élève.
Simone Fraisse.
Et c'est en 97 que vraiment la bataille pour Dreyfus a commencé à l'intérieur de l'école. Le secret de leur querelle a été un incident, n'est-ce pas, pénible dans la direction commune d'une œuvre de publication socialiste. En 1898, Charles Peggy fonde une librairie. Rue Cujas, la librairie Georges Bellay. Et il manque de faire faillite pendant l'été 99. À ce moment-là, Lucien R. lui vient en aide et crée la Société Nouvelle de librairie et d'édition avec quatre amis, dont Blum, Mario Rock, etc. Et Peggy ne devient plus que délégué à l'édition. R. ayant apporté une somme d'argent assez forte pour le sauver de la faillite, d'une façon presque anonyme, parce que c'est lui qui a fourni la plus grande part, mais il ne l'a pas dit. Peggy n'étant que délégué à l'édition, ça ne pouvait pas durer. Peggy avait un tempérament trop indépendant. En particulier, il avait envie de dire tout ce qu'il avait sur le cœur contre les guédistes. Lucien R. n'était pas guédiste du tout, il était almaniste, parmi les fractions du Parti Socialiste. Mais il cherchait l'unité et il trouvait que Peggy, par ses attaques, était susceptible de compromettre l'unité future du Parti Socialiste. En cela, il est d'accord avec Jaurès, n'est-ce pas, qui cherchait à réaliser l'unité. Alors, ça s'est gâté en décembre 99. Peggy a rompu avec la Société Nouvelle, il a créé les Cahiers de la Quinzaine. Mais il réclamait une part importante d'un capital que Charles Andler a dit fictif. Mais, mon Dieu, il y a eu quelques troubles, quelques équivoques, quelques malentendus, je crois, dans les accords qu'ils ont faits à ce moment-là. Et c'est de là que date leur éloignement. C'est de cette affaire de la Société Nouvelle.
Est-ce que c'est une opposition d'idées plus qu'une opposition d'hommes ?
Peggy avait fondé, à la date symbolique du 1er mai 1898, une librairie socialiste.
Géraldine Leroy, cette librairie fait faillite.
Cette librairie fait faillite. En effet, il s'est passé diverses choses qui expliquent cette faillite. Il ne faut pas oublier que la librairie de Peggy était au centre des bagarres et qu'elle faisait souvent matériellement les frais des affrontements entre les jeunes nationalistes et les dreyfusistes.
Oui, il y avait des bris de vitrine qui font penser beaucoup à la librairie de François Maspero au moment de 68 aussi. C'est assez drôle.
Voilà. Alors tout ça faisait que la gestion de Peggy n'a pas eu sans doute toute la rigueur nécessaire. Il faut ajouter qu'il a fait quelques mauvaises prévisions en matière éditoriale. Il a notamment lancé un livre d'articles de Jaurès qui était tiré à 10 000 exemplaires, et ce qui était une prévision tout à fait erronée. Et
pourquoi c'était trop grand voir?
En effet, le public socialiste à l'époque n'était pas suffisamment nombreux pour qu'on puisse escompter l'absorption d'un tel ouvrage. Et ceci a considérablement grevé les finances de Peggy.
Alors il fait appel à Lucien R. qui lui vient en aide.
Lucien R. Considère qu'il doit s'investir lui aussi, puisque on ne peut pas laisser tomber une œuvre socialiste, d'autant que ce genre d'œuvre était rare sinon unique. Et il apporte des fonds nécessaires à la pérennité, enfin du moins à la survivance de cette institution.
Alors, est-ce que c'est vraiment pour faire de l'éducation populaire ou est-ce que c'est pour faire une tâche d'édition ? C'est ça qu'on ne comprend pas très bien.
Lucien R. assignait trois objectifs à la librairie et à la maison d'édition telle qu'il l'a réorganisée. La section dite populaire à laquelle R. avait songé n'a quasiment rien donné.
Oui.
La section primaire et primaire supérieure, ça n'a pas donné grand-chose non plus. R., en tant qu'universitaire et savant, a réservé tout son effort à la section scientifique.
Bibliographique même.
Et bibliographique.
Oui, oui.
Ce n'était pas, du point de vue éditorial, sans conséquence.
Oui.
Car beaucoup de jeunes producteur en matière socialiste, en matière d'édition savante, ont préféré assez souvent confier leurs ouvrages à des éditeurs, disons bourgeois, beaucoup mieux équipés pour leur assurer un succès.
Oui, ça aussi, ça rappelle l'aventure des éditions Maspero.
Et oui. Il y a là une contradiction chez un certain nombre de gens entre les convictions intimes et puis l'intérêt personnel. R, à ce moment-là, souhaite l'unité socialiste et ses amis. Peggy, à la fin de 1899, et ce sera l'une des grandes causes de la rupture, Peggy pense que l'unité socialiste telle qu'elle s'effectue est une fausse unité, une unité artificielle. Et ce qui l'a profondément choqué, on le sait amplement, c'est la résolution sur la discipline de la presse qui avait été votée au congrès de 1899. R est à un moment donné a investi une grande part de sa fortune pour renflouer Peggy, et Peggy, lorsque il a éprouvé le besoin d'aborder d'autres secteurs d'activité, d'aborder d'autres voies que Lucien R, a, comme l'a dit Handler, retourné le désastre contre R. Peggy raisonnait de cette façon,
oui.
N'est-ce pas ? Il raisonnait de façon anarchisante. Et pour lui, R n'avait rien à réclamer dans cette affaire.
Ouais.
Ils étaient faits pour marcher ensemble. Tous deux exerçaient un fort ascendant intellectuel sur leurs proches.
Ah oui.
Lucien R a exercé un fort ascendant intellectuel sur Peggy. Peggy, encore après l'avoir attaqué très durement en 1913, disait « Je ne parlerai de R qu'avec une extrême réserve. Il fut un des maîtres de notre jeunesse. » Certainement le plus pur et le plus confident.
Oui. Oui, c'est un témoignage de grande confiance.
Et cependant, dans le même volume, il dresse une caricature de Lucien R. Il l'appelle un fanatique. Il dit qu'il a créé à l'école un foyer du parti allemand, n'est-ce pas? C'était impardonnable.
Nationalisme en France au début du XXe siècle, ça veut dire quelque chose de très précis, à quoi Peggy adhère, tout en restant républicain, qui est aussi un nationalisme monarchiste. Mais R n'a pas un moment, avant 1914, ni développé, ni exprimé même, dans sa correspondance avec ses amis comme Handler ou Halévy, des positions nationalistes, alors que Peggy les a exposées sans frein, à partir de 1905. Quant à la rupture avec les deux hommes, elle est dans une très grande mesure une rupture très, très personnelle. Enfin, R était un homme fort... fort droit et fort honnête, et il n'a pas toléré la manière dont Peggy parlait de lui. Il faut dire que le texte le plus dur que j'ai jamais lu sur Peggy, moi, et le texte le plus dur certainement qu'a jamais écrit Lucien R, est le texte qu'il a écrit sur Peggy. Si vous voulez, je peux vous le lire, parce que c'est un texte tout à fait terrible. C'est une lettre adressée à Albert Houtin, un partisan de la Société des Nations, en 1920. Et voilà ce que R dit de Peggy, en 1920. Peggy était mort depuis 6 ans. C'était le pur homme de lettres. Affolé d'ambition et d'orgueil, demi-fou lucide, paysan bohème mais rusé et parfaitement conscient dans ses combinaisons et ses calculs. Et R rend ensuite les attaques basses de Peggy contre lui, responsable de ce que pendant 10 ans, R, comme il dit, n'a pas pu donner sa force à ce qui était son œuvre véritable.
Le monde qui nous concerne, le monde humain, sort à peine de la période des débuts, de la période de vie végétative, passive, impulsive. L'âge nouveau, l'âge de la réflexion et de la virilité, commence à peine. Notre marche est encore obstruée de brutalité, de survivance sauvage et barbare, de bêtises superstitieuses. Une critique attentive de la société actuelle montrerait partout, dans toutes les classes de la vie, dans tous les usages et toutes les impulsions qui gouvernent la conduite, une part infiniment prédominante de duperie et de mensonge.
Il y a des cassures, il y a des échecs dans cet itinéraire que vous dites romantique et que vous dites religieux, mais il y a une ténacité et au fond un accomplissement, parce que... Inspirer le titre de l'humanité, devoir en partir, mais retomber sur ses pieds après, avec Léon Blum, tout en passant par le musée pédagogique. C'est quand même un itinéraire exceptionnel. C'est assez extraordinaire pour quelqu'un qui n'avait pas de rôle public.
Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que je ne sais pas si Lucien Herr a fasciné, enfin si je le sais, il a fasciné ses contemporains.
Daniel
en tout cas,
Lindenberg.
Il nous fascine parce que précisément pour un inconnu, à chaque moment historique dans sa vie de l'histoire du socialisme démocratique en France, effectivement, il est tout à fait derrière des tournants décisifs. Enfin, mais toujours comme homme de l'ombre, c'est-à-dire il est effectivement derrière l'affaire Dreyfus, il est derrière l'unité socialiste et la fondation de l'humanité. Et puis finalement, il est également derrière l'entrée des socialistes dans le gouvernement d'Union Sacrée avec un projet qui est plus effectivement qu'un ralliement, qui est aussi d'infléchir à cette occasion la politique de l'État français envers les ouvriers, envers le travail. Et finalement, après la Première Guerre mondiale, et ça c'est le sens de la fondation du musée pédagogique, tenter de prolonger la fraternité des tranchées par une vaste réforme démocratique de l'enseignement. Bon, tout ça, c'est des choses, finalement, c'était des bouées à la mer, c'était beaucoup trop en avance. Mais souvent, si on regarde, évidemment, sur le court terme, ce sont des échecs. Si on regarde sur le long terme, il a lancé des idées qui sont devenues des forces prodigieuses. Par exemple, dans le cas de la scission de 1920 entre la SFIO et le Parti communiste, bien entendu, le discours de Tours auquel il a mis la main avec Léon Blum n'a pas empêché que, immédiatement, c'est le communisme qui a gagné pour longtemps. Mais aujourd'hui, finalement, il y a un socialisme démocratique en France, ou même en général dans les pays de l'Europe latine, qui n'est pas si loin, finalement, de l'idéal de Lucien Herr.
Lucien Herr et Léon Blum, histoire d'une amitié.
Un jour, en 1893, je l'ai rencontré place de la Concorde. Il allait à la Revue de Paris. Nous sommes promenés 2 heures dans les Champs-Élysées. Ce fut une reprise brusque d'où notre amitié se transforma en intimité. C'est Herr, déjà mêlé à toute la vie socialiste, inscrit chez les almanistes, qui a cristallisé toutes les tendances diffuses en moi et a opéré le revirement de mon esprit individualiste et anarchiste vers le socialisme. Pour bien comprendre ce que pouvait être ma pensée avant la rencontre de Herr, imaginez ce qu'était le Clémenceau de cette époque, un Clémenceau vacillant entre le socialisme et l'anarchie. Récit de Léon Blum au journaliste Louis Lévy.
J'aime beaucoup cette rencontre parce que, à la différence de celle de l'école normale, où Lucien Herr était un personnage doté d'un certain pouvoir, bien que le bibliothécaire ne soit pas exactement doté de l'autorité, mais en tout cas, il trônait au sommet de sa pyramide de livres. En plus, c'était un homme très grand, très physiquement très puissant, et il y avait, mettons, un rapport de pouvoir entre Herr et Blum à l'école normale. Mais quand ils se sont revus, c'était vraiment sur le plan de l'égalité, trois ans plus tard. Il y avait entre 8 ans de différence, c'est vrai, une grande différence de connaissances, mais enfin, tout de même, donc ils ont pu se voir là en amis. Et c'est à partir de ce moment-là, en effet, que Blum a senti sa vocation, je dirais, politique. C'est à partir de là que Léon Blum a été saisi de la passion de la justice et a senti qu'une certaine forme de socialisme que lui proposait, que lui décrivait Lucien Herr, pouvait être la réponse à cette interrogation relative à la justice.
Pour prendre le terme dans son acception familière, nul homme ne possédait si naturellement un autre homme. Une emprise physique ajoutait à cet ascendant de raison, car il avait une taille de bon géant, un crâne démesuré, une parole sans dureté et même tendre, mais qui dénudait tout, bousculait tout, un regard où l'autorité se mêlait de sollicitude. Tel était l'homme qui m'avait affirmé à brûle-pourpoint, pendant que nous marchions ensemble dans une allée du jardin, « Dreyfus est innocent ». et qui, me voyant saisi et déjà presque conquis par sa voix, m'énonçait alors l'un après l'autre les faits, les arguments, les preuves. Léon Blum, Souvenirs sur l'affaire, 1935.
Je crois qu'il y a deux façons de se comprendre, de s'aimer, de devenir amis. C'est soit par la similitude, soit par la complémentarité. Je crois que, à vrai dire, la complémentarité est encore une meilleure voie que la similitude. Et là, on ne peut pas imaginer personnage plus complémentaire que Lucien R. et Léon Blum. Lucien R. qui est tout, je dirais, en muscle intellectuel et physique, d'ailleurs, tout en force, tout en architecture, en structure, tout en os, si je puis dire. C'est vraiment la puissance virile, vitale, créatrice. Et Léon Blum est tout en charme, tout en réceptivité. Julien Binda a parlé de personnage reflet. C'est trop restrictif, bien entendu. Blum a été aussi un créateur, et même un grand créateur et un grand artiste. Mais c'est vrai qu'il était bon que en lui fût suscitée une force créatrice. Lucien R. a été le torrent qui a fait bouger la roue de la meule et qui a produit quelque chose qui est très beau, qui est la carrière de Léon Blum, l'art de Léon Blum, et la façon qu'il a eu d'influer sur la société non pas seulement française, mais européenne, de son temps. Je crois là qu'il y a quelque chose de magnifiquement additionnel, si l'on peut dire, entre la puissance de Lucien R. et le charme et l'art d'expression de Léon Blum. On pourrait parler d'une gamète mâle et gamète femelle, mais je crois qu'en Blum, justement, il y avait cette part de la femme en l'homme, en tout bien tout honneur, d'ailleurs, bien entendu, qui me paraît essentiel. Je crois qu'un homme est grand aussi dans la mesure où il est femme, et je crois que c'est bien le cas de Léon Blum. Peut-être que ce qui a limité la grandeur de Lucien R., c'est qu'il y avait essentiellement la part de l'homme et peu de part de la femme en lui.
Est-ce que Lucien R. a construit la carrière politique de Léon Blum que lui-même n'aurait pas pu faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ?
Peut-être en effet qu'il y a plus ou moins le rôle du souffleur et le rôle du grand artiste, n'est-ce pas ? Donc je crois qu'il y a vraiment une impulsion d'une part et une admirable traduction de l'autre. Je crois que c'est ce type de rapport qui devrait être compris entre R et Blum, sans non seulement sans négliger au passage le rôle considérable qu'a joué Jean Jaurès, car il n'y a pas un duo, il y a vraiment un trio.
Lettre à Léon Blum et à sa femme. 21 septembre 1907. Je ne gémis pas. Je ne me plains pas que ma destinée n'ait pas été bonne. Elle est pour une bonne part ce que j'ai voulu qu'elle fût. Si j'avais à la refaire, je la ferais sans doute autre partiellement. Non que je me sois trompé, mais parce que je conçois les choses aujourd'hui plus justement et plus exactement que jadis.
Mais il ne faut pas oublier justement que Léon Blum, entre 1905 et 1914, justement, n'est plus un Léon Blum politique. Vous savez que Léon Blum a oscillé longtemps entre l'esthétique et la politique. La grande amitié avec Léon Blum, c'est aussi la période où Léon Blum s'occupe plus de Stendhal que de Marx. Pour dire les choses assez rapidement, plus de théâtre que de scène politique. C'est aussi l'époque quand même où Lucien R. va quand même trouver un aboutissement à sa vie privée, il va se marier, etc. C'est aussi une époque de dépression. Enfin, malheureusement, nous n'avons pas les témoignages qu'il nous faudrait sur ces épisodes, mais c'est certain que là, comme dans d'autres biographies, le politique en général, les problèmes de la cité s'imbriquent avec ceux d'un individu d'exception, et nous ne saurons jamais le fin mot, mais il y a une corrélation très nette. Si vous voulez, le Lucien R. après 1914, il y a presque une dernière vie. Lucien R. est un homme qui a eu plusieurs vies comme ça, plusieurs vies politiques en tout cas, et effectivement la dernière vie politique de Lucien R. Commence en 1914, parce que là, de nouveau, les cartes sont rebattues. L'histoire de nouveau frappe à la porte.
il y a la terrible épreuve de la mort de Jaurès et de la continuation du mouvement socialiste français après la mort de Jaurès et après l'éclatement de la guerre mondiale, qui est un échec terrible pour le socialisme, n'est-ce pas? Les socialistes de cette nature, bien qu'ils fussent patriotes, restaient patriotes, croyaient quand même que le socialisme empêcherait la guerre. Or, Jaurès est tué, la guerre éclate. Que faire à ce moment-là? Est-ce qu'on peut encore continuer? Eh bien oui, et ils choisissent, Blum et Hare, d'entrer dans l'Union sacrée. Ils pensent qu'en effet, puisque le socialisme a échoué à empêcher la guerre, au moins doit-il continuer à éviter la victoire de l'impérialisme militaire. Et, si possible, après, la guerre étant finie, la résurrection de la justice ou l'instauration de la justice. Il y a une ligne permanente entre la création de l'unité socialiste en 1905, la succession de Jaurès et le passage à l'union sacrée. On ne sait pas ce qu'aurait décidé Jaurès s'il était resté vivant. Mais Jaurès vivant, les choses sont d'une dimension différente de toute façon. En tout cas, après la mort de Jaurès, bon, on continue et on fait l'union sacrée. Et puis après, il y a l'épreuve immense du congrès de Tours, c'est-à-dire de l'attitude du socialisme français face au socialisme bolchevique, au socialisme totalitaire, que non pas proposent, mais veulent imposer les bolcheviques de Moscou, et l'acceptation d'une discipline de caractère militaire, et l'acceptation du passage éventuel à l'illégalité, et la suppression de la démocratie au sein du socialisme. Tout ça, ce sont des débats très graves, où après tout, au sein des socialistes français, il y a des conflits profonds, de caractère vitaux, si l'on peut dire, et Blum et Lucien Hare refuse le système totalitaire soviétique et préfère être mis en minorité et quitter la vieille maison, comme disait Léon Blum, la vieille maison, les maisons socialistes, pour fonder la SFIO et maintenir le socialisme français dans la démocratie. C'est une épreuve terrible, parce que la rupture d'une famille est toujours quelque chose de terrible, et là ils ont accepté non seulement la rupture de la famille, mais d'être dans la minorité, d'être chassés de la maison, d'être taxés de considérés comme des infidèles. C'est une épreuve terrible et qu'ils ont dû affronter ensemble.
Les thèses communistes vont nous imposer d'une part la subordination à tous les degrés, avec à la tête un comité directeur et de l'autre des organismes clandestins que vous êtes tenus, de par les thèses et les statuts, d'organiser. Le comité exécutif de la Troisième Internationale se réserve même le droit de vous imposer directement cette création, si vous montriez quelque faiblesse ou quelque lenteur à vous prêter à cette exigence. Et quand il y a juxtaposition d'organes publics et clandestins, où réside l'autorité réelle? Par la force des choses, dans l'organisme clandestin. Cela revient à dire que dans le parti que l'on veut nous faire, le pouvoir central appartiendra finalement à un comité occulte désigné sous le contrôle du comité exécutif de l'Internationale elle-même. L'unité dans le parti était jusqu'à ce jour une unité synthétique, une unité harmonique. Vous, ce n'est plus l'unité en ce sens que vous cherchez. C'est l'uniformité, l'homogénéité absolue. Votre doctrine est fixée une fois pour toutes. Né variétour. Qui ne l'accepte pas n'entre pas dans votre parti. Qui ne l'accepte plus devra en sortir. Tours, 20 décembre 1920.
Étant donné l'intimité des rapports entre Blum et Hare, il est bien possible que Blum se soit chargé de la rédaction de base, de la structure du discours, et que Léon Blum se soit chargé, ce qui était terrible, de le prononcer devant un congrès hostile. Ce qu'était Blum avec sa extrême sensibilité, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, il affrontait là des amis qui étaient entrés en désaccord fondamental avec lui. C'était une épreuve terrible. Alors peut-être qu'il a confié en effet à Lucien Hare l'essentiel de la rédaction, et que lui s'est chargé de l'interprétation, de la modulation. Et vous savez, un discours, il n'est pas seulement ce qui est écrit, il est surtout ce qui est dit. Et là, on le voit bien, en effet, qu'au fur et à mesure des interruptions, il y a une modification. Alors, disons, et ça me paraît très beau, même encore plus beau, que ce soit un discours commun de Blum et de R. Nous pouvons l'accepter comme tel.
C'est une pratique politique courante.
Absolument. Et puisque c'est un geste magnifique, autant qu'il retombe sur la tête de deux hommes magnifiques, n'est-ce pas ? Je dirais que ce discours est quelque chose qui symbolise la relation entre Lucien R. et Léon Blum.
Chez Lucien R., faire l'histoire à la première personne, ça n'arrive jamais. On est presque au bord avec l'affaire Dreyfus, mais finalement, c'est quand même Lucien Ernéclat, le chef d'état-major de Jaurès. On est presque au bord pendant la guerre de 1914, mais finalement, c'est aussi Léon Blum qui sera mis sur orbite. Peut-être y a-t-il aussi des personnalités qui sont capables de telle ou telle inscription dans l'histoire. Là, nous rejoignons des problèmes très, très difficiles.
Peut-être celui de l'ambition.
Oui. Ah oui, non, mais chez Lucien, justement, contrairement à la personnalité que j'ai citée, il y a un absolu manque de mégalomanie et d'ambition. Je veux dire, c'est une limite que nous ne pouvons pas franchir, puisqu'il ne l'a pas franchie.
Je crois quand même que ça nous permet d'entrevoir ce qu'est la puissance des rapports d'homme à homme, et que l'inscription dans l'histoire, c'est une chose, mais les relations d'homme à homme, à travers laquelle l'histoire se tisse, à travers laquelle l'histoire se fait, c'est aussi fort presque, non ?
Bien sûr. Balzac aurait dit l'envers de l'histoire contemporaine. Il y a tout un aspect de l'histoire qui se fait par des hommes qui ne sont pas célèbres, qui ne sont pas sous les feux de la rampe et qui ne le seront jamais. Mais je crois que dans le cas de Lucien R., peut-être y avait-il un défaut de la cuirasse.
Ces hommes qui ne sont pas dans la pleine lumière, sans être non plus dans la pénombre, qui sont à côté, simplement, que l'on voit se profiler à côté, et qui sont souvent les semeurs d'idées, et aussi qui ont, ce qu'on dit, ils ont l'oreille d'eux. À moins que ce ne soit le grand homme qui tend l'oreille à leurs propos. Je crois qu'il y aurait quelque chose à écrire, si ce n'est pas moi qui le fais. J'aurais peut-être plus le temps de le faire maintenant. Je glisserais volontiers l'idée à un jeune et brillant politologue de mes contemporains ou des plus jeunes. Il y aurait quelque chose à dire là, sur ces hommes qui sont ces semeurs d'idées, des dialogueurs, des fraternels, des hommes qui sont les intercesseurs, qui agissent par le conseil, qui agissent par la méditation aussi, qui souvent n'est pas pris dans le grand remous de la négociation, du discours, du débat parlementaire, ont le temps de réfléchir, ont le temps d'être derrière, d'être bon, ce qu'on appelle aujourd'hui les hommes du brain trust, n'est-ce pas, le cerveau, les hommes qui sont le cerveau, non pas que les leaders n'aient pas de cerveau, mais enfin qui peuvent consacrer plus longtemps, eux, à la méditation. J'aimerais que ces hommes-là soient, qu'on leur rende justice un jour.
Profil perdu. Lucien R., le prince du grenier, 1864-1926. Seconde émission proposée par Pascal Werner, avec Jean Bayou, Simone Fraisse, Henri Guillemin, Jean Lacouture, Géraldine Leroy, Daniel Lindenberg, Madeleine Ribériou et Jean-François Sirinelli. Texte de Lucien R. lu par Jean Bollery. Texte de Paul Nizan lu par Muriel Silan. Texte de Léon Blum lu par Christine Ray. Mixage Bruno Niewdanski, chargé de réalisation, Marie-Ange Garandeau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 novembre 1988.